découvrir et comprendre la doctrine sociale de l'Église avec Mgr Marc Hayé.
Voilà, nous allons conclure cette série de catéchèses de cette année pastorale qui va s'achever maintenant. Après un temps de confinement qui a aussi un peu bouleversé nos programmes, mais en terminant sur cette question des structures de péché que nous avions inaugurées avant même le confinement. En nous arrêtant sur la question de l'objection de conscience, qu'on doit considérer à la fois comme un droit et parfois même comme un devoir. Alors vous rappelez que lors de notre précédente catéchèse sur les structures de péché, nous avons insisté sur l'importance des institutions dans la vie sociale et politique, en précisant d'ailleurs que celles-ci ne sont jamais neutres, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, puisque toute institution qui organise la vie sociale des hommes s'inspire nécessairement d'une certaine vision de l'homme et d'une certaine vision de la société, comme le rappelait le numéro 2244 du catéchisme de l'Église catholique auquel nous sommes référés. Nous avons surtout rappelé que les laïcs, les fidèles du Christ laïque, comme on dit, Christi fideles laici, selon une belle exhortation apostolique du pape Jean-Paul II sur précisément la vocation et la mission des fidèles du Christ laïque dans l'Église et dans le monde, qui sont particulièrement en charge du bien commun de la société, de l'animation chrétienne des réalités temporelles dans lesquelles ils sont immergés par leurs conditions de sécularité, d'insertion dans le siècle, que les laïcs donc ne devaient jamais se résigner à subir passivement l'influence qui peut être délétère et corruptrice de ces structures de péché, surtout quand elles s'immiscent à travers les lois et les institutions qui régissent et qui organisent la vie sociale. Mais qu'ils devaient au contraire s'efforcer de leur résister et de les combattre. Ah, le mot résistance qui est tout à fait à la mode aujourd'hui puisque nous sommes dans cette période du 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle le 18 juin et qui appelle précisément la résistance dans une période troublée de notre histoire, mais qui reste un peu dans l'ADN du citoyen face à des conditions qui combattent la justice. Cette résistance et ce combat reposent d'abord et avant tout sur la liberté et le primat de la conscience. Voilà, c'est très important ça. Ce qui est au-dessus même des lois lorsqu'elles peuvent contraindre la dignité de la personne humaine, c'est la conscience. Comme le disait un grand converti de l'anglicanisme, le cardinal John Henry Newman, qui fut canonisé par le pape François le 13 octobre 2019 et qui avait été béatifié par le pape Benoît XVI, il disait « La conscience est le sanctuaire de l'homme. Le jugement de la conscience est impératif. Il faut toujours faire ce que dicte la conscience. » Mais il faut préciser que la dignité de la personne implique et exige la rectitude de la conscience. La conscience a des droits parce qu'elle a des devoirs. C'est ce qu'il écrivait au milieu du 19e siècle. Voyez, je ne dis pas la bonne conscience, parce qu'on peut avoir bonne conscience, mais être dans l'erreur. Je dis la conscience droite, c'est-à-dire qu'elle est rectifiée dans sa connaturalité, avec la sagesse de Dieu qui est imprimée dans la raison de l'homme. Or, plus la législation d'un pays s'écarte de la loi naturelle, comme c'est malheureusement le cas depuis quelques décennies dans la plupart des pays occidentaux, plus le recours à l'objection de conscience s'impose ou devient nécessaire. C'est clairement ce qui ressort de l'enseignement constant de l'Église et du catéchisme de l'Église catholique, je cite le numéro 1903, « L'autorité ne s'exerce légitimement que si elle recherche le bien commun du groupe considéré, et si pour l'atteindre, elle emploie des moyens licites. S'il arrive aux dirigeants d'édicter des lois injustes ou de prendre des mesures contraires à l'ordre moral, ces dispositions ne sauraient obliger les consciences. » Fin de citation. C'est également ce que cite ce que souligne avec force le pape Saint Jean-Paul II à propos des lois qui promeuvent la culture de mort, hein, sur lesquelles il a eu beaucoup à s'exprimer, comme s'est exprimé Benoît XVI et comme s'exprime si souvent, de manière assez lapidaire, le pape François. Dans l'encyclique Evangelium Vitae, le 25 mars 1995, dont nous célébrons cette année, je rappelle, le 25e anniversaire, il invite en effet les chrétiens et tous les hommes de bonne volonté à ne jamais coopérer de quelque manière que ce soit au mal, à l'injustice, à l'erreur ou au mensonge dans lesquels la plupart des hommes se laissent malheureusement entraîner par lâcheté, par conformisme ou par ignorance. Je cite le numéro 74 de cette encyclique Evangelium Vitae. Les chrétiens, de même que tous les hommes de bonne volonté, sont appelés en vertu d'un grave devoir de conscience à ne pas apporter leur collaboration formelle aux pratiques qui, bien qu'admises par la législation civile, sont en opposition avec la loi de Dieu. En effet, du point de vue moral, il n'est jamais licite de coopérer formellement au mal. Fin de citation. Dans le contexte de l'encyclique Evangelium Vitae sur l'inviolabilité et la valeur de la vie humaine, une telle injonction concerne au premier chef les personnels de santé, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, parfois contraints de participer à un avortement ou à une euthanasie, malgré elles ou malgré eux. Elle peut aussi concerner les pharmaciens, qui par exemple sont normalement tenus de délivrer certains produits abortifs. Mais au-delà des médecins ou des professionnels de santé, l'objection de conscience peut concerner bien d'autres situations ou professions. Le journaliste, auquel on demande de diffuser des informations fausses ou tendancieuses, le professeur de SVT ou le professeur d'histoire, censé enseigner à leurs élèves certaines théories pernicieuses ou mensongères, le commercial ou le banquier, qui par simple honnêteté refuse de proposer à leur clientèle certains produits douteux, le DRH, auquel on demande de procéder à des licenciements injustifiés ou abusifs, le libraire, qui refuse d'exposer, de mettre en œuvre des revues pornographiques, le maire et ses adjoints, dont on attend qu'ils procèdent au mariage d'un couple homosexuel et qui s'y refusent pour des raisons de conscience, l'officier ou le soldat, qui dans des circonstances exceptionnelles peuvent être amenés à refuser d'exécuter des ordres manifestement immoraux, etc. On pense par exemple au moment de la libération au bombardement de la ville de Dresde. Eh bien, le pilote à qui on donne l'ordre de bombarder une ville et donc de massacrer des civils sans discrimination, eh bien, a un devoir de conscience de s'opposer à une telle loi, même s'il doit encourir la cour martiale. J'aurais pu dire aussi la justice qui est contrainte par l'État d'accélérer une procédure d'apporter à la hâte des éléments qui n'ont pas été assez suffisamment pesés. Vous voyez, aujourd'hui, on est en plein scandale qu'une procureure de la République ou un juge, plus exactement d'instruction, du parquet financier, eh bien, dit avoir été suivi des pressions du gouvernement au moment de l'affaire Fillon, par exemple. En d'autres termes, l'objection de conscience doit être revendiquée comme un véritable droit, un droit que la législation civile devrait positivement reconnaître comme tel. Hein, dans tous les cas, comme le dit l'encyclique Evangelium Vitae, au numéro 74, refuser de participer à la perpétration d'une injustice est non seulement un devoir moral, mais aussi un droit humain élémentaire, droit essentiel qui devrait être prévu et protégé par la loi civile elle-même. Fin de citation, et je poursuivrai dans la prochaine catéchèse.